En cas d'urgence, briser la glace. Épisode 2. Dans l'océan Pacifique Nord, entre Hawaï et l'Australie, se trouve une petite île de moins de 2 km de surface et de moins de 7 km de côte. L'île a une forme de haricot, allongée selon un axe nord-sud. Le climat y est équatorial, avec un soleil brûlant, mais des températures modérées grâce à un vent d'est constant. Le sol de cette île, entouré d'un fin récif de corail, est sablonneux. Il n'y a aucune source d'eau douce sur l'île. Le sol est recouvert d'herbes et de petits buissons. La partie centrale de l'île, où il est possible d'y trouver les ruines d'un bâtiment qui sert de lieu de nidification et de repos pour les oiseaux, est légèrement surélevée mais ne dépasse pas les 6 mètres au-dessus du niveau de la mer. Si le niveau des océans continue de monter, l'île d'Åland pourrait disparaître de la carte et la faune ne pourra plus bénéficier de ce lieu de répit lors de leur migration. L'île appartient aux États-Unis qui en prirent possession en 1857 pour ses réserves de guano qui furent exploitées et épuisées. Il reste toutefois quelques traces d'une occupation lointaine de l'île par des peuples polynésiens. En 1935, quatre élèves d'une école militaire hawaïenne, la Kamehameha School for Boys, furent envoyés sur l'île pour prendre part à une expédition scientifique de 3 mois afin de collecter des échantillons botaniques et biologiques, ou tout du moins leur mission leur fut présentée comme telle. C'est une fois en mer qu'on leur dit que, je cite, « leur nom allait rentrer dans l'histoire et que l'île d'Åland serait transformée, je cite à nouveau, en base aérienne faisant partie d'une route reliant l'Australie à la Californie. » Le ministère du Commerce des États-Unis, soucieux d'installer une présence humaine permanente sur les îles de la ligne, souhaitait coloniser l'île d'Åland, revendiquée en 1886 par les Britanniques. Les quatre recrues ont créé alors le campement d'Itascatown, composé d'une douzaine de maisons en bois et de tentes nommées avec le nom des navires américains qui assuraient à l'époque le ravitaillement entre les îles. Ces recrues ont reçu pour toute ressource des réserves de viande séchée et d'eau douce, un réfrigérateur marchand au pétrole, un équipement radio, des kits médicaux et de grandes quantités de cigarettes. C'est la pêche qui les aidait à varier leur alimentation. La plus grande partie de leur travail consistait alors à réaliser des observations météorologiques et à développer peu à peu les infrastructures rudimentaires de l'île, comme l'aménagement d'une piste d'aviation en 1937. Cette date est importante pour la suite. Des projets similaires furent entrepris sur l'île Baker, l'île Jarvis, ainsi que 2 autres îles. Le 8 décembre 1941, l'île est attaquée par 14 bombardiers du service aérien de la marine impériale japonaise. Au cours de cette attaque, 2 des 4 recrues, Richard Kanani Wiley et Joseph Kealoha Kelly Anuanui, trouvèrent la mort. Les 2 recrues survivantes furent récupérées le 7 février 1942 par un destroyer de l'United States Navy, puis un bataillon du corps des Marines des États-Unis s'installa sur l'île en 1943 pour l'abandonner 1 an plus tard et devenir progressivement le lieu de protection de la faune et de la flore qu'elle est actuellement. Cependant, ce qui m'a fait connaître l'île d'Åland est un événement qui eut lieu en 1937. Il concerne un exploit aérien qui fut tenté par une pilote et son second, et dont la fin reste encore un mystère à ce jour.
Thank you.
Née en 1897, la jeune Amelia Earhart est considérée dès son plus jeune âge comme une meneuse, aux idées non conventionnelles. Elle réalisa ses études secondaires à la Hyde Park Academy High School, puis retrouva sa sœur à Toronto, dans l'Ontario. Durant la Première Guerre mondiale, elle s'engagea comme aide-soignante et travailla pour la Croix-Rouge avant de rejoindre le Spadina Military Hospital, installé dans le Knox College de Toronto. La guerre finie, Amelia reprit des études à l'Université Columbia de New York, où elle suivait des cours de préparation à la médecine, mais un événement marquant lui fit prendre un tout autre chemin. Nous sommes en décembre 1920, à l'aérodrome de Long Beach, sur la côte est américaine. Amelia Earhart réalise à l'âge de 23 ans son baptême de l'air. Pour cette jeune femme originaire du Kansas, c'est une révélation. Elle redescend transfigurée et affirme « Je serai pilote ». Elle commence dès le mois suivant des cours d'aviation. Pour pouvoir les financer, elle devient tour à tour élève infirmière, assistante sociale et monte dès qu'elle le peut dans un avion pour décrocher sa licence auprès d'une autre pionnière de l'aviation, Anita Snook. À peine 2 ans plus tard, elle bat un record d'altitude féminin en amenant son avion à 4300 mètres d'altitude. C'est ainsi que son nom commença à circuler dans le milieu très machiste de l'aviation. En 1927, Charles Lindbergh réalise le premier vol New York-Paris à bord du Spirit of St. Louis. Les éditeurs qui avaient publié le récit de sa traversée, et en particulier George Putnam, imaginèrent alors qu'il était possible de réaliser une publication tout aussi marquante si ce trajet était réalisé par une femme. C'est ainsi qu'Hilton Riley, le collaborateur de Putnam, contacta Amelia Earhart en lui demandant « Aimeriez-vous être la première femme à traverser l'Atlantique ?» Si la proposition put paraître enthousiasmante, l'expérience du vol transatlantique fut néanmoins entachée de sexisme. Désignée capitaine de l'expédition aux côtés de 2 copilotes masculins, Amelia fut sommée de rester spectatrice dans le cockpit sans toucher aux manettes, si ce n'est quelques secondes. À leur atterrissage au Pays de Galles, Amelia, bien que plébiscitée au même titre que ses copilotes, déclara sans fard qu'elle n'avait été dans cette traversée qu'un sac de pommes de terre, ajoutant qu'elle tenterait peut-être la traversée seule un jour, ce qu'elle fit en 1932. Entre les 2 traversées de l'Atlantique, la renommée de l'aviatrice alla grandissante. Elle écrivit des articles sur sa passion de l'aviation, s'engagea dans la création d'une association de femmes pilotes, donna des conférences. Toujours peu conventionnelle pour l'époque, Amelia Earhart l'était aussi dans sa vie personnelle. Après avoir refusé 5 fois la demande en mariage de George Putnam, elle accepta la 6e mais à certaines conditions. Elle insista sur le refus de la fidélité, le partage des tâches, l'autonomie financière et la conservation de son nom de jeune fille, une rareté dans les années 30. En 1935, elle réalise le tout premier vol en solitaire d'Hawaï à la Californie après l'échec de plusieurs aviateurs et, forte de ses succès, décide de tenter un tour du monde en avion en 1937. Le 21 mai 1937, Amelia Earhart décolle d'Oakland, en Californie, et se dirige vers l'Est. Il s'agit de sa deuxième tentative de faire le tour du monde à l'équateur. En mars, son premier essai prit fin quelques jours seulement après le départ de son avion, le Lockheed Electra, lors du décollage à Honolulu. Suite à cet échec, elle décide cette fois-ci de voler vers l'est au lieu de l'ouest afin d'éviter les intempéries. Il reste toutefois une partie du trajet extrêmement difficile vers la fin du tour, vers l'île Zaoland. Un bateau, l'Itasca, est prévu pour la guider. Sachez que je suis tout à fait consciente des dangers. Je veux le faire parce que je veux le faire. Les femmes doivent essayer de le faire, faire les choses comme les hommes ont essayé. Quand ils échouent, leur échec ne doit être qu'un défi pour les autres, écrit-elle à son mari avant son départ. Elle part accompagnée de Fred Noonan, navigateur aérien de premier ordre et réputé gros buveur. L'avion est configuré pour privilégier la communication vocale. Amelia Earhart et Fred Noonan passent de longues journées de vol pour atteindre le Brésil, Dakar, Khartoum, Bangkok, Darwin, en Australie. 40 jours, 35 000 km et plus de 20 escales après leur départ de Californie, le binôme arrive à La Haye, en Nouvelle-Guinée. Nous sommes fin juin. Le duo décolle de La Haye le 2 juillet 1937 au matin pour tenter de rejoindre Howland, à 4000 km de là, guidé par l'Itasca. Les conditions météo sont a priori idéales, mais très vite, le temps se gâte et d'importantes dépressions viennent perturber la visibilité. Le Lockheed Electra tente une première communication radio pas loin d'Howland. Nous devrions être au-dessus de vous, mais nous ne vous voyons pas. Le carburant commence à baisser. L'Itasca reçoit l'appel et attend de voir l'avion. Sans succès. Vers 20h, heure locale, l'avion tente de nouveau de communiquer. Nous vous entendons, mais n'arrivons pas à relever un minimum. S'il vous plaît, faites un relèvement sur nous et répondez sur 310 en phonie. Trois quarts d'heure plus tard, nouvelle tentative. KHAQQ à Itasca, nous sommes sur la droite 157-337. Nous répéterons ce message sur 6210 kilocycles. Attendez. L'Itasca ne voit toujours pas l'avion qui émet un dernier message vers 21h. Nous cherchons vers le nord et vers le sud. Le bateau émet des signaux. Mais l'avion ne répond plus, disparaissant peu après la ligne de changement de date, en vol vers le jour précédent. Puis, plus rien. Plus de 80 ans après, des expéditions sont toujours organisées pour comprendre le mystère qui entoure la disparition d'Amelia Earhart et de Fred Noonan. Les recherches ont pu être restreintes à une zone de 1600 km², avec l'espoir de retrouver de quoi résoudre cette énigme. Parmi les personnes actives dans les recherches, les membres du TIGWAR, The International Group for Historic Aircraft Recovery, ont exploré l'île de Nikumaroro et y ont trouvé objets et ossements. Les conclusions sur l'analyse des ossements se contredisent, mais les derniers résultats parlent d'ossements féminins qui pourraient correspondre à Amelia Earhart. En 2018, l'association TIGWAR publia un article concernant les transmissions radio de la nuit où le Lockheed Electra avait disparu. En effet, plusieurs personnes déclaraient avoir entendu, souvent par accident, les appels de détresse d'une femme de la Floride au Canada. Si le rayonnement des transmissions peut surprendre, les membres du TIGWAR ne sont pas étonnés d'une telle prouesse. En 2021, la piste du naufrage sur l'île de Nikumaroro semble sérieuse sans pour autant être confirmée. Toujours est-il que, malgré les précisions qui dissipent quelque peu le brouillard autour de la disparition du Lockheed Electra, le mystère n'est pas encore levé autour du drame de l'île d'Howland.
Lying.
cas d'urgence, briser la glace, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Rendez-vous le 20 février 2022 pour le troisième épisode.